Chapitre 12e. Cette proposition de la marquise fit que ce ne fut plus seulement par simple curiosité qu'Hélène attendit le retour du marquis et du jeune comte de Courtomer. Le marquis approuverait-il l'idée de sa femme? C'était là pour Hélène une question qui lui faisait battre le cœur. Pauvre grand-mère, comme elle serait heureuse dans ce petit pavillon. Il était charmant avec son jardin potager et sa cour. Installé là, n'étant pas seule, puisque trois ou quatre maisons étaient groupées en cet endroit, elle pourrait y vivre de la vie qui avait toujours été la sienne, cultiver son jardin, élever quelques volailles. Et tous les jours, en sortant avec Adélaïde, elle passerait par là. Que le marquis approuvât cet arrangement, ce qui paraissait probable, Hélène n'aurait plus rien à désirer. Sa vie et celle de sa grand-mère seraient assurées. Elle n'aurait plus qu'à prouver chaque jour sa reconnaissance à la marquise, et elle ne faillirait pas de ce devoir, doux pour elle. Des indices certains annoncèrent bientôt que le marquis et le comte allaient arriver. On nettoyait les écuries, on ratissait les cours, on astiquait les harnais, on donnait une nouvelle couche de peinture au chenil qu'on lavait chaque jour. Enfin, tout ce qui touchait aux chevaux, aux chiens, aux voitures, prenait un air de fête comme à la veille d'une revue. Mais Hélène remarqua une grande différence dans les préparatifs qui se faisaient pour la réception du père et du fils. Ce qui appartenait au père était abandonné aux domestiques, qui arrangeaient les choses comme ils voulaient. Au contraire, ce qui appartenait au fils était surveillé par la mère avec un soin jaloux. Évidemment, Madame de Courtomer n'avait point pour son mari les mêmes sentiments que pour son fils. Il n'y avait pas besoin d'être un profond observateur pour le voir. Mais où cela fut surtout sensible et sauta aux yeux, ce fut la veille de leur arrivée, quand le soir, Madame de Courtomer donna ses ordres à la cuisinière pour la journée du lendemain. « Monsieur le marquis et monsieur le comte arrivent demain. Vous aurez soin de nous faire un dîner en conséquence. Vous savez que j'y tiens. »« Que commande, madame la marquise ?»« D'abord le pot-au-feu. Après un mois de cuisine parisienne, ils auront plaisir à manger une bonne soupe grasse. »« Avec des légumes nouveaux ?»« Assurément. Surtout des carottes nouvelles, que monsieur le comte aime beaucoup. » Vous aurez soin de ne pas mettre du caramel. Mais monsieur le marquis se plaint toujours que le potage manque de couleur. Monsieur le comte n'aime pas la couleur. Puis des truites à la sauce blanche. Monsieur le marquis les commande toujours à la meunière. Monsieur le comte ne les aime pas à la meunière. Après les truites, un riz de veau au petit pois. Les pois cuits à l'eau et servis verts avec le beurre non fondu. Mais monsieur le marquis ne veut les pois que cuits avec du lard. « Monsieur le comte n'aime pas le lard, vous le savez bien. Ensuite, un gigot d'agneau. »« Mais monsieur le marquis m'a dit qu'il ne voulait plus d'agneau. »« Il ne s'en souviendra pas. Monsieur le comte fait ses délices de l'agneau. Surtout, servez-le très chaud. Dans les bons restaurants parisiens, on le sert brûlant. Il ne faut pas que mon fils fasse en quoi que ce soit des comparaisons qui tournent à l'avantage de Paris. Pour légumes, des asperges à la crème. » Puis-je en servir une assiette d'eau froide pour monsieur le marquis? Sans doute, mais bien entendu, si vous en avez trop pour la sauce blanche. Appliquez-vous, faites-nous un dîner soigné, aussi bon que possible, qui nous mérite les compliments de monsieur le comte, et ne lui donne pas le regret du café anglais ou du café riche. Au moins ne se gênait-elle pas, la marquise. Avec Hélène, elle procéda tout aussi franchement. « Demain, ce sera congé, » dit-elle, après avoir envoyé Adélaïde dans le jardin, sous un prétexte quelconque. « Je ne veux pas que ma nièce soit attristée par le travail. Vous la distrairez comme vous voudrez, peu m'importe. Mais je tiens à ce que sa petite figure soit souriante à l'arrivée de son cousin. Vous lui arrangerez une toilette gaie. » Cela est difficile avec son deuil. Vous lui ferez mettre des ruches neuves au cou et aux poignets bien bouillonnées. Vous lui laisserez ses cheveux blonds frisés par sur les épaules. Comme cela, elle est charmante et je tiens à ce qu'elle soit charmante pour son cousin. Je ne veux pas avoir de secret pour vous et je crois qu'avec une personne raisonnable et prudente telle que vous êtes, le mieux est de vous confier mes intentions, convaincu que, les connaissant, vous les appuierez. Mon projet est que mon fils épouse un jour ma nièce. Et c'est pour cela que je veux que dès maintenant, il s'habitue à la voir charmante, de telle sorte que dans 5 ou 6 ans, le mariage se fasse tout naturellement. Peut-être cela n'ira-t-il pas tout seul, car j'aurais bien du mal à le garder à la maison, malgré tout ce que je suis disposé à faire pour le retenir. Et puis, d'autre part, j'aurais du mal aussi, je le crains, à lui faire oublier la naissance d'Adélaïde. Mais j'espère réussir. Et je ne vous cache pas que je compte beaucoup sur vous, qui devez me faire de cet enfant une jeune fille accomplie. Quel était donc ce Guiscard à qui il fallait une jeune fille accomplie? Ce fut ce qu'Hélène se demanda le lendemain plus d'une fois, en amusant son élève et en s'efforçant d'amener et de fixer sur ce gracieux et mélancolique visage le sourire que Madame de Courtomer avait demandé. Elle croyait avoir réussi, ayant employé un moyen irrésistible avec Adélaïde, celui des histoires racontées que la petite adorait, lorsqu'au moment même où l'on entendait rouler la voiture qui ramenait M. de Courtomer et Guiscard, que la marquise avait été chercher à la gare, elle vit ce sourire qui épanouissait les lèvres de l'enfant s'effacer brusquement. « Maintenant, c'est fini de rire, » dit Adélaïde. « Et pourquoi donc ?»« Parce qu'avec M. le comte, » elle imita l'emphase de sa tante, prononçant ces trois mots pour elle si importants, « on ne s'amuse pas. » »« C'est lui qu'il faut amuser, et cela n'est pas facile. Il n'est pas commode, monsieur le comte. » Il fallait qu'Adélaïde, ordinairement secrète et retenue, pensa bien fortement ce qu'elle disait pour s'exprimer ainsi, et Hélène resta un moment surprise. Mais se taire n'eût point été remplir la mission que Madame de Courtemer venait de lui confier. « Vous devez mal juger votre cousin, mon enfant, » dit-elle. « Vous ne le connaissez pas. » « Sans doute, mais je vois combien il est tendrement aimé par sa mère, et quand on inspire une pareille tendresse, soyez sûr qu'on la mérite. » Adélaïde parut réfléchir, touchée évidemment par cette parole, mais tout à coup elle secoua la tête par un geste mutin qui éparpilla ses cheveux sur ses épaules. « Vous allez voir, » dit-elle. En effet, elles n'eurent pas longtemps à attendre, bientôt la cloche sonna le dîner. En entrant, Adélaïde courut à son oncle et l'embrassa, puis elle donna la main à son cousin, qui lui répondit simplement « Bonjour, petite !» Quant à Hélène, elle salua avec une révérence pour le père, une inclination de tête pour le fils, et elle attendit qu'on lui adressât la parole. Mais on ne lui dit rien. « Je suis mort de faim !» s'écria Guiscard en se dirigeant vers sa place. On se mit à table, et alors seulement, tout en mangeant son potage, Hélène put à la dérobée examiner M. de Courtemer et Guiscard. Si le marquis ne descendait pas authentiquement d'une race de héros, au moins avait-il la tournure, ou plus justement, la stature et l'encolure que la tradition prête aux anciens chevaliers. Près de 6 pieds de haut, des épaules et un torse à la Michel-Ange, et avec cela une tête de faune, au large front cornu, au menton en pointe recourbée, au nez fort et busqué, les cheveux roux, la barbe rude, le teint coloré, sillonné de petites veines rouges, les mains poilues. Tandis que le père qui approchait de la cinquantaine était sec et nerveux, le fils qui avait 20 ans à peine était gras et mou. À son père, il avait pris sa grosse charpente osseuse qui le faisait presque aussi grand que lui. De sa mère, il avait reçu l'abondance de chair qui le rendait déjà replet malgré sa jeunesse. D'elle aussi, il avait reçu le blond de sa chevelure soyeuse et la transparence rosée de son teint de bébé rebondi. Hélène eût voulu continuer son examen, mais elle en fut empêchée en sentant les yeux du marquis et de Guiscard posés sur elle et l'examinant. « Voilà un potage qui manque de couleur, » dit le marquis. « Il est excellent, » répliqua aussitôt Guiscard, « et j'en reprendrai volontiers avec des légumes. » À le voir manger, on comprenait son engraissement précoce. Lorsqu'on servit le poisson, le marquis déclara que les truites à la sauce blanche l'écœuraient, tandis que Guiscard déclarait de son côté qu'il n'y avait rien de meilleur au monde et qu'on n'en faisait pas comme ça à Paris. « Heureusement, » dit le marquis. Pour ne pas laisser naître une discussion, Madame de Courtomer s'empressa de mettre la conversation sur Paris et le concours hippique. « Ah, tu sais, maman, très chic. » Tu me l'as dit dans tes lettres. Mais comment, chic? Voilà, moi je n'en dis pas long, mais c'est senti, chic. De plus en plus chic, tout ce qu'il y a de chic à Paris. Il s'y entasse des gens qui ne savent seulement pas ce que c'est qu'un cheval, mais ça ne fait rien. Si pour eux il n'y a rien de chic à voir, au moins c'est chic de s'y faire voir. Ce qui est curieux, c'est le jour de Saint-Cyr. Il y a un tas de femmes qui viennent là faire leur choix. Monsieur le comte, interrompit madame de Courtemer en montrant Adélaïde d'un coup d'œil. Tu me demandes, je te le dis. Enfin, tu sais, maintenant crottin et encens, tout est là pour qu'ils se respectent un peu. C'est les deux odeurs à la mode. Encore de l'agneau? S'écria monsieur de Courtemer. Quelle chance, dit Guiscard. Voilà un fameux dîner. Et un agneau gras, tendre, chaud, comme on n'en sert pas au café anglais. Décidément, il savait manger, monsieur le comte de Courtemer. Ce fut ce que se dit Hélène tout bas. Madame de Courtemer fit encore une diversion. « Pourquoi n'es-tu pas resté pour l'ouverture du salon de peinture ? » demanda-t-elle. « 12 ou 15 kilomètres de peinture à faire à pied ? Ah non, merci ! Quand les peintres feront leur exposition en bas en même temps que les concours hippiques et qu'on pourra passer devant leur toile peinte à cheval, au galop, je ne dis pas. » Grâce à une assiette d'asperges froides que la cuisinière avait eue en trop, le dîner s'acheva sans discussion. Cependant, lorsque le soir Hélène se trouva seule dans sa chambre, elle eut le chagrin de se dire que ni le père ni le fils ne valaient la mère, et que ce fils pour lequel on rêvait de si haute destinée, et à qui il fallait une femme accomplie, était bien ce qu'avait dit le père Bonjean. Mais ce n'était point là ses affaires, et elle n'avait point à s'inquiéter de ce que pouvait être, ni de ce que pouvaient valoir monsieur le marquis et monsieur le comte de Courtemer. Ce qui la touchait seulement, et ce qui la faisait réfléchir, c'était la façon persistante dont tous deux l'avaient regardée pendant le dîner. Pas une seule fois, elle n'avait rencontré leurs yeux, parce qu'elle n'avait pas tourné les siens de leur côté, mais constamment, elle les avait sentis sur elle.